Nous avons, dans une continuité de la liturgie, l'évangile des noces de Cana, où le Christ manifeste sa divinité, sa gloire, comme dit saint Jean, car il n'y a que Dieu qui puisse créer la matière. En effet, pour ne pas trop plaisanter, mais tout de même, voyez-vous, beaucoup de ceux qui aiment le vin auraient souhaité goûter de ce vin-là, car créé par Dieu, il devait être délicieux, mais directement. Oui, notre Seigneur va apporter à cette eau tous les éléments du vin. Mais voyez-vous, alors que nous venons de quitter le temps de Noël, le temps de l'Épiphanie, mais nous sommes dans ces dimanches après l'Épiphanie, jusqu'au 2 février, nous chantons la Vierge Marie qui engendre son Créateur. Le 2 février, le vieillard Siméon présentera l'enfant au temple, et entre Noël et cette présentation au temple, ce mystère de l'incarnation nous sera présenté. Un mystère de présence de Dieu, un mystère d'union entre la nature divine et la nature humaine. Et c'est là le véritable salut. En effet, l'homme peut toujours inventer toutes les religions qu'il veut, dans tous ses désirs, dans tous ses souhaits, dans toutes ses inquiétudes et dans toutes ses peurs. Mais Dieu nous a donné sa présence, qui dissipe en quelque sorte tout ce que l'homme a pu construire, même à travers des siècles, même à travers des cultures. C'est la raison pour laquelle des hommes, des femmes de tout pays et de toute culture se sont approchés de cette incarnation. Vous me direz aussi peut-être que les Grecs et les Romains avaient des dieux qui avaient des enfants avec les hommes, mais c'était légende et demiurge. Cette arrivée du Christ est tout à fait précise, elle est humble, elle n'est pas fantastique. Et le premier miracle que Jésus accomplit, outre de connaître totalement la parole de Dieu et la Sainte Écriture, à 12 ans, avec les prêtres et les scribes et les docteurs de la loi, c'est ce miracle très simple de créer de la matière. Or, ce miracle est tout particulier en effet, parce que dans cette humilité et dans cette force, Dieu veut nous ouvrir à sa rédemption. Car si le Christ prend un corps humain, c'est pour l'offrir. S'il prend notre nature, c'est pour faire de nous des frères et des sœurs de son Père. Mais c'est également pour nous sauver. Et comment nous sauver? Nous qui, par le péché originel, par ce péché de l'humanité, désirons exister sans Dieu, choisir nous-mêmes ce qui est bon pour nous, ce qui est mauvais pour nous. Oui, pourtant nous ne mettons pas en cause les sciences, la médecine qui nous dit que tel breuvage, tel élément est un poison. Ni curare, ni strychnine ne seront pour nous quelque chose que nous mangerons volontiers. Nous l'avons appris de nos parents et des adultes. Eh bien, pourquoi tout d'un coup l'homme veut remettre en cause ses relations naturelles ce pourquoi il a été créé, vivre en paix, en justice et en paix. Et ce n'est pas pour rien que le Christ fait son premier miracle lors d'un mariage. Quels que soient les troubles de notre société occidentale, nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme. Quel que soit l'avenir que nous prépare tel ou tel commerciaux pour acheter les services d'une femme plutôt pauvre, peut-être un jour une personne qui souhaite le faire mais qui sera indemnisée, qui portera un enfant pour d'autres, eh bien tout cela s'éloigne de cette relation particulière d'un homme et d'une femme, d'un père, d'une mère et de ses enfants. Oh, bien sûr, nous ne nous comprenons pas toujours parfaitement. Nous ne lisons pas dans nos pensées les uns les autres. Et nous voudrions peut-être être dans une parfaite connaissance de l'autre, mais ce ne serait pas notre nature humaine. Notre nature humaine est dans le temps, dans l'apprentissage, dans l'amour conquis et reconquis parfois. Oui, nous avons à avoir cette patience que Dieu lui-même a vis-à-vis de nous, comme père et comme frère. Mais aussi aujourd'hui, d'une manière un peu particulière, mais autant aussi ne pas toujours dire des choses qu'on connaît déjà un peu et qu'on veut creuser. Il y a un véritable mariage entre Dieu et l'humanité. Et Saint Jean-Baptiste nous disait bien que Jésus est l'époux et qu'il est l'ami de l'époux. Ce premier mariage se fait pendant un mariage. Et vous comprenez bien que le maître de cérémonie, lorsqu'il félicite l'époux, qui n'y est pour rien, il félicite Jésus. Mais il félicite l'époux. Et en effet, Jésus est l'époux. Et ce mariage de ce couple à Cana est le signe des noces éternelles, des noces de l'agneau de l'Apocalypse. Oui, Jésus est l'époux et il nous donne le meilleur vin. Alors que l'humanité a commencé durement, de manière frustre et brutale, mais que petit à petit, les âmes se sont adoucies. Nous le voyons de mille manières. Et alors que demain, nous commencerons la semaine de l'unité des chrétiens, nous voyons bien que même ceux qui ont reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne se sont pas compris, se sont jalousés, se sont fait la guerre. Et cela est un scandale, bien sûr. Vous qui dites que Dieu est amour et qu'il s'est fait homme né de la Vierge Marie, vous vous disputez et vous vous querellez entre vous. Oui, cette unité des chrétiens, elle est d'autant plus importante chaque année et pour cette année 2016, parce que nous avons besoin de donner cette espérance à des peuples qui ne l'ont pas. À des enfants d'Abraham, me direz-vous ? Oui, mais Dieu n'est pas seulement le Tout-Puissant. Il s'est fait homme et il habitait parmi nous. Il veut que nous comprenions cet amour particulier du Créateur pour ses créatures. Il veut que nous comprenions que nous sommes frères et sœurs et que si il y a une violence entre nous, nous ne pourrons faire la guerre que de manière juste et en nous défendant. Oh, cela peut paraître théorique et lointain. Et pourtant, voyez-vous, quel que soit notre état de vie, que nous soyons célibataires, mariés, veufs, veuves, nous sommes appelés à espérer. Tout à l'heure, un homme sur le chemin, nous discutions, il se disait athée. Et une personne à côté disait, mais ce n'est pas, c'est très bien, du moment que vous êtes heureux. Oui, mais voyez-vous, être heureux en étant athée, c'est quand même se dire qu'au moment de notre mort, nous allons disparaître comme l'air léger, comme un animal. C'est considérer qu'il n'y a pas de vie après la mort. Mais je voudrais que celui qui a eu l'intelligence et la puissance de me créer, qu'il m'invite à vivre avec lui. Je voudrais qu'il me demande de répondre à sa création. Je voudrais aussi, mais j'ai mon père et ma mère encore, mais j'ai des grands-parents à revoir, j'ai des personnes que j'ai aimées, et mon désir ne peut pas être vain. Oui, nous sommes invités à bien comprendre cet amour de Dieu, et plus particulièrement dans cette année de la miséricorde. Alors, au moment de nous approcher du Christ qui change maintenant le vin en son sang, parce que le prix de notre bonheur, c'est qu'il ait pris le péché, la haine suprême qui est de vouloir la mort d'un innocent. Il l'a pris sur ses épaules et il a détruit ce péché. Et cette destruction et cette victoire, elle nous est offerte. Et à chaque Eucharistie, le Christ rend présent le don. Et nous pouvons le recevoir comme Marie l'a reçu dans ses bras. Nous pouvons le recevoir comme le vieillard Siméon l'a reçu dans ses bras, en communion. Et même si parfois un glaive peut traverser notre cœur, comme celui du cœur immaculé de Marie, nous avons l'espérance de cette force et de cette victoire. La même espérance qui animait la Vierge Marie debout au pied de la croix et dans le samedi qui lui est consacré. Car alors que tous ont désespéré, elle attendait la résurrection de son Fils. Que nous puissions garder et transmettre et rayonner cette foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.